Bonjour, je suis Alice Quinn. Je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Le but, c'est de se détendre, d'oublier quelques minutes par jour ce que nous vivons en ce moment. Et ça tombe bien puisque avec Rosie Maldon, nous allons au Festival de Cannes. Alors je vous propose de remplacer le vrai 73e festival par celui complètement fictif de mon roman Maldon au Festival de Cannes. Il s'agit de la lecture numéro 3. Vous avez vu Rosie sur le rond-point protéger un visiteur, un ancien footballeur devenu acteur. Puis l'ensemble des insurgés a investi un supermarché sur une idée de Sabrina, la fille de Rosie. À la sortie de cette opération rêve, comme ils l'appellent, une productrice a enlevé discrètement Rosie pour lui proposer un travail un peu spécial. Alan Sergo, l'acteur qu'elle avait sauvé le matin même, ne jure plus que par elle. Il a viré son bodyguard et il a fait un caprice pour avoir Rosie Maldon comme bodyguard ce soir à la projection au Palais des Festivals. Bien entendu, Rosie est ravie de l'aubaine, elle qui cherche toujours du travail. Et comme la productrice Blanche Dorsey exige qu'elle signe un contrat, elle emmène sa nouvelle employeuse au Select, le café de Tony, pour signer les papiers. Allez, je commence. 11. En arrivant au Select, c'est la fête des bisous avec les petites et j'installe mes kidnappeuses impatientes et exaspérées dans la salle du fond, sous le ventilo. Elles échangent encore des regards agacés. « Désolée, je dois régler quelques détails, je leur dis pour les faire patienter. Vous prendrez quoi ?» Elles commandent 2 mojitos et je transmets à Tony. « Elles sont avec toi ?» demande-t-il. « Oui, pourquoi ?»« Alors ça sera des jus de tomate, » dit-il. Je râle pour la forme, même si je sais que c'est la règle. On a un stock à finir depuis des années, depuis avant mon ère, et Tony en profite avec nous. Quoi que nous demandions, nous avons droit au jus de tomate. « Elles sont venues te voir pour quelle raison ? » demande-t-il. C'est Sabrina qui répond. « C'est un entretien d'embauche, » dit-elle. « Envoyé du ciel, » je rajoute. « Justement, ça devenait urgentissime que je trouve un job. » Quand je finis par rejoindre mes invités, avec 3 verres de jus de tomate à la main, elles ont un air un peu interloqué, mais elles ne relèvent pas. Depuis son comptoir, Tony observe mes interlocutrices avec méfiance. « Bon, allez, je leur dis, sortez la paperasse. » Ferrier sort la liasse et un stylo qu'elle pose devant moi. Je vois que le premier paragraphe, celui où je suis censé voir apparaître mon nom, a été laissé vide pour l'instant. Dorsey a suivi mon regard. « Signez, je vais mettre vos coordonnées ensuite, ça ira plus vite. » Je fais semblant de lire pour la forme les papiers et c'est pas mon style, je suis allergique. « C'est quoi le salaire ?» je demande. « Article 16 », me dit Ferrier. Puis elle rajoute. « Faut paraffer. » « J'ai vu qu'il y a des paragraphes », je dis vexée. « Elle me prend pour une gourde ou quoi ?»« Dites-moi le salaire de votre bouche, je veux l'entendre. »« 250 », dit Dorsey. « C'est pour la semaine ?» je demande, plutôt réjouie par l'aubaine d'un travail qui durera plus qu'une soirée. « Non, dit Audrey, c'est pour ce soir. » Je fais celle qui trouve ça normal, 250 pour une soirée, mais... Je me demande où est l'arnaque. Franchement, pour ce prix, elle m'ordonne de sauter à l'élastique du haut de la tour du Suquet. Je le fais. Je tousse, je me donne une contenance, je me dis que je dois poser des questions, même si ce n'est pas vraiment un entretien d'embauche. Quel est l'horaire exact ? Le repas est-il fourni ? Ça, c'est une question que j'oublie rarement. Aucune réponse. Sabrina prend le tas de feuilles, elle me met le stylo dans la main et elle me tend les pages une à une en me demandant de mettre mes initiales en bas à droite. Je lui obéis docilement. Mimi, curieuse, s'approche de notre table. « Vous n'avez besoin de rien, mesdames » demande-t-elle comme si on était dans un bar sur la Croisette. « Des glaçons avec votre jus de tomate, peut-être » Les deux femmes jettent un regard vers leur verre, non entamé, vers la serveuse intrusive, vers Sabrina et moi, puis elles échangent un regard désabusé. Dorsey pousse un soupir et porte le verre à sa bouche, résigné. J'arrive à la dernière page, j'écris « lu et approuvé » comme on me le demande, et je trace un gribouillis. Blanche Dorsey se saisit du contrat, essaie de déchiffrer ma signature. « C'est quoi votre nom ?» demande-t-elle en sirotant son jus de tomate. « Je dois le mettre au premier article. » Maldon. Je sais pas ce qui lui prend tout à coup, elle manque s'étrangler quand elle entend mon nom. Elle a un hoquet, devient livide sous son fond de teint, pose son verre brusquement sur la table, ce qui éclabousse tout de taches de sang, se lève en faisant racler bruyamment sa chaise, puis se rassoit tout aussi brusquement et se met à me fixer d'un air abruti. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» je demande sur un ton coupable. « Qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est interdit de s'appeler Maldon ? Je m'en passerai volontiers, c'est un nom qui porte malheur. C'est comme ça, j'y peux rien. Vous voulez voir ma carte d'identité ?» Elle tousse, se compose un maintien rigide, prend un air pincé, en commençant à écrire mon nom dans la partie manquante. « Non, non, pas besoin. Prénom ? Rosie. » Alors là, c'est carrément la bérésina. Elle suffoque, se relève en accéléré et fonce aux toilettes. « Je reviens !» dit-elle d'une voix altérée. Médusée, on reste toutes les trois autour de la table à échanger des regards interloqués. « Ça lui arrive souvent ?»« Je sais pas, » dit Audrey. « C'est la première fois que je travaille avec cette production. »« Elle est toujours comme ça, avec son chapeau, à faire du genre ?» Elle rit. « Non, quand même, au bureau, elle l'enlève. »« Et le maquillage ?» « Oui, ça, je l'ai jamais vue démaquillée. Il paraît qu'elle est très jolie sous le fond de teint. »« C'est quoi ce nom anglais? Elle est anglaise ?»« Non, c'est son mari. Il est américain, c'est un réalisateur. Michael Dorsey, vous connaissez pas? Il fait des films très respectés par la critique. » Je traduis en moi-même des films qui marchent pas, mais je dis rien. « Non, je connais pas. Remplissez le contrat à sa place, ça ira plus vite, mettez mon nom. » Elle veut toujours remplir les blancs des contrats elle-même. Ne me demandez pas pourquoi. Une manie. Raide comme un piqué, la grande dame revient vers nous en tout sautant. « Excusez-moi, une urgence. Bon, nous en étions où ? Ah oui, quelle est votre adresse ?» Sa réaction m'a rendue un peu parano. Alors je lui dis qu'elle n'a qu'à écrire l'adresse du Select. Le courrier me parvient et puis je passe tous les jours. « Maman, c'est plus simple de donner l'adresse de la caravane près de la gare désaffectée. C'est plus officiel pour un contrat de travail. »« Je crois pas vraiment, Sabrina. » Je ne veux pas lui faire les gros yeux, car c'est elle qui a raison. Moi, j'ai juste la méfiance chevillée au corps. Ce n'est pas quelque chose de bon à transmettre. Je ne suis pas contente, car maintenant, ce drôle de clone de Madame de Fontenay sait où j'habite. Fascinée, je regarde ses doigts manucurés mettre mon nom et mon adresse dans les espaces vides. Elle inscrit soigneusement « Maldon, Rosie, caravane, pré, gare, désaffectée ». De temps en temps, elle m'observe entre ses fossiles tout en écrivant. On dirait qu'elle veut me photographier et m'enregistrer dans son disque dur. Je sens que je fais une connerie. En allant travailler avec ces gens, ils ont l'air complètement déphasés. Elle m'a épinglée, c'est sûr, elle m'a enfermée dans une cage, je le sens. « Tu vas aller au festival ce soir, maman ?» me demande Sabrina, toute fière. Elle court vers le comptoir. « Maman, elle a signé. Elle va au palais du festival de Cannes ce soir. » Je baisse les bras. C'est bon. Advienne que voudra le destin. Je remarque que la blanche, non contente de m'observer comme un insecte, suit Sabrina des yeux aussi et se penche même en avant pour essayer d'apercevoir à qui Sabrina parle. Elle est passée d'une complète indifférence à un intérêt appuyé envers tout ce qui semble me concerner depuis qu'elle sait mon nom. C'est vraiment étrange. Je me penche en avant par-dessus les documents. « Écoutez-moi bien, Madame Dorsay Blanche, je ne suis pas votre chose, compris ? Pas d'entourloupe avec moi, sinon vous le regretterez. Je ne vous appartiens pas sous prétexte que j'ai signé sur votre bout de chiffon. » Elle continue, imperturbable, en me demandant mon numéro de sécu. « Bon, c'est fini, là ? On se retrouve à l'hôtel à 21h ?» Non, j'ai oublié de vous dire. Votre travail commence certes à 21h, mais il faut que vous veniez tout de suite avec nous. Nous ne parvenons pas à faire sortir Alan des toilettes. Il n'écoute même pas sa partenaire, Paloma. Or, il faut qu'il s'habille, qu'il se maquille, etc. Ils doivent faire leur entrée ensemble ce soir. Et tant qu'il ne vous aura pas vu, il ne croira pas que nous vous avons engagé. La confiance règne chez vous. On a l'habitude avec les gens célèbres, ils ont tous leurs petites fixettes. Vous avez de la chance, je la rassure, je suis un peu psy sur les bords. Elle me regarde en haussant les sourcils, je me demande comment elle fait ça. En haussant un sourcil, pardon, je me demande comment elle fait ça. Léo se pointe tout excité en criant, cri 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 cri, je peux venir avec toi au festival, hein ? Tu as besoin d'un cavalier, non ? Pourquoi ce jeune homme vous appelle-t-il Cri-Cri ? Demande la Blanche sur un ton méfiant. Vous n'êtes pas Rosie Maldon ?
Si, si, je préfère qu'on m'appelle Cri-Cri, c'est tout. Il n'y a que ma mère qui a le droit de m'appeler Rosie.
Le regard de la productrice se fait soudain vague, un brin nostalgique, et elle se perd dans des pensées lointaines pendant que je réponds à Léo. Désolé, c'est pas possible, Léo. C'est pour un boulot. Je suis obligée d'y aller seule. Tu pourrais ramener les enfants à la caravane et t'en occuper ce soir. Tu dors chez moi ? Je sais pas quand je rentrerai.
C'est pas vraiment cool, dit-il. Tu sais que je fais du montage en mon BTS audiovisuel. Ça serait canon si j'allais à une vraie soirée au palais. C'est toujours toi qui vas au truc important. Au yacht club pour Caron et maintenant là pour le film de Dorsay avec Alain Sergo et Paloma Girard.
Comment ça, t'es au courant pour cette soirée ?
Oui, il paraît que ce film va révéler deux futures superstars.
Ouais, enfin, moi, je m'en bats les... Un regard vers Sabrina et je ne termine pas ma phrase. La productrice et la chargée de com se lèvent et vont régler les consos au comptoir à un Tony boudeur. Il a tout écouté et il n'aime pas quand je m'éloigne trop de son café. Je l'entends qui demande « C'est pas dangereux ce boulot que vous lui proposez ? Vous avez vraiment personne d'autre pour faire le bodyguard ?»
C'est qui ce type-là, ce Sergo ?
Vous le connaissez pas ?
Si, si, je le connais, c'est le footballeur le plus naze de la planète. Je voulais dire dans la vie, il est comment ?
Il est sympa ?
Je sens la jalousie dans sa voix. Qu'est-ce qui peut m'agacer quand il s'y met ?
Enfin, c'est ce qu'on dit sûrement pour faire de la pub, continue Léo sur sa lancée en parlant du film de ce soir. Tout ce que je constate, je lui réponds, c'est que je vais être hyper bien payée pour me pavaner en paillettes sur le tapis rouge à faire un boulot que je sais pas faire, donc que je ne vais pas faire. En un mot, à rien faire.
C'est étrange ce que tu dis, Cri-Cri.
Oui, c'est vrai, mais tu apprendras que de toute façon, comme disait Mémé Ruth, il faut d'abord dire oui à toute proposition de travail et après seulement te débrouiller avec ce qu'on te demande.
Oui, enfin, ta Mémé Ruth, on sait bien qu'elle mentait comme un arracheur de dents.
C'est vrai. De toute façon, ce qu'il y a de mieux après le boulot, c'est les vacances, non ?
Le problème, c'est qu'on n'a pas de boulot ?
Non, le problème, quand on n'a pas de boulot, c'est qu'on n'a pas non plus de vacances, contrairement à tous ceux qui pensent que les chômeurs sont tout le temps en vacances.
Qu'est-ce qui t'arrive, Cri-Cri ? Tu penses ?
Je hausse les épaules devant son sarcasme et je crie à mes nouvelles employeuses.
Attendez-moi, j'en ai pour une minute.
Léo a déjà compris et quand je lui tends la main à plat en lui faisant les yeux du chat poté dans Shrek, il me tend, résigné, son téléphone. Je tapote rapidement quelques mots pour prévenir mes âmes sœurs du site de rencontre que je serai injoignable jusqu'à demain et je n'attends pas la réponse. Puis je rejoins les deux parisiennes. Les jumelles me sautent au cou et ne veulent pas me lâcher. Sabrina me glisse à l'oreille.
T'inquiète, maman. J'irai au débriefing de l'opération rêve tout à l'heure et je te tiens au courant.
Je regarde ma fille avec inquiétude.
Tu peux y aller, mais avec Léo, compris ?
Elle plisse les yeux pour me rassurer, comme Pastis quand il me joue son air entendu plein d'amour et je dois me contenter de ça comme promesse. La cérémonie du bye-bye dure pas mal de temps. Tout le monde se met ensuite sur le pas de la porte pour me regarder partir avec la reine au chapeau et sa porte-parole. Ils ont les yeux dans les nuages car ils me voient déjà en haut de l'affiche, au sommet des marches du palais des festivals. Moi, je me demande si je vais parvenir à persuader le Sergo à sortir de ses chiottes parce que si j'y arrive pas, adios la piche de ce soir. En m'éloignant, j'entends Tony demander à Léo.
« C'est quoi cette histoire de ton téléphone avec Cri-Cri ? Pourquoi elle veut toujours que tu lui passes ?»«
Je sais pas, » répond Léo évasif. « Pour un boulot, peut-être ?»«
Mouais. » Tony n'a franchement pas l'air convaincu. S'il se met à être jaloux d'un téléphone, maintenant...
La Tesla met trois plombes à traverser le carré d'or. C'est bouché de partout, ils ont changé tous les sens des rues et la croisette est carrément barrée. La Blanche a l'air de savoir comment faire. Elle prend un itinéraire tarabiscoté et se trouve pile derrière le Majestic dans une petite rue encombrée. « Vous connaissez bien Cannes ?» je lui dis. Elle me fixe, hésitante, avec son sourcil relevé. « Jeune fille, figurez-vous que j'ai vécu ici, il fut un temps. »«
Ah oui ? Dans le fond, je m'en fiche royalement, mais par politesse, je lui pose la question qu'elle semble attendre. « Et vous avez quitté la région pour quelle raison ?»«
Des histoires de famille. »«
Ah oui ?»
Décidément, je me répète.
« Ce sont des choses qui arrivent, on ne contrôle pas tout dans la vie. »«
Vraiment ?» je lui rétorque, piqué. « Moi, oui, je contrôle tout. »
Et je descends de la voiture qu'elle a stoppée devant l'entrée-service. Un petit jeune, car park valet service, à casquette, fonce vers elle, attend qu'on soit toutes descendues et lui pique ses clés. Mon premier réflexe est de crier au voleur, mais j'ai fini par piger que le type va juste aller garer la Tesla pour elle. À ce moment-là, une berline de location grand luxe se pointe et une petite jeune fille, toute intimidée, en descend. Elle regarde autour d'elle, un peu perdue. Le chauffeur fait un signe au groom qui s'avance vers elle. Je la vois d'abord de dos, mais quand elle se tourne, je reconnais Vanessa, notre petite gilet jaune de l'ADAS. « Vous venez pour l'audition ?» lui demande le car park serviceman. Elle hoche la tête, toute contente. « Oui !» Elle tend un carton qu'il saisit avec une expression désolée. « J'ai rendez-vous » dit-elle. « Suivez-moi, c'est par ici. » Il la devance, d'une démarche résignée. Je me demande pourquoi il a eu l'air si déprimé quand il lui a parlé de son rendez-vous. Cette petite scène m'a un peu déconcentrée. Je voulais lui faire un signe, mais je n'ai pas eu le temps. Et je constate que la blanche n'a pas apprécié ma remarque de tout à l'heure sur le contrôle de sa vie. On dirait qu'elle veut me semer. Elle avance au pas de course devant nous. Audrey, craignant que je me débine, m'attrape par le bras et me guide dans les détails du palace. Nous prenons l'ascenseur sans un mot, en même temps que Vanessa. Je n'ose rien lui dire. J'ai l'impression qu'elle ne m'a pas reconnue. Elle a l'air un peu angoissée et surexcitée. Le trac de son audition sûrement. Ou alors elle veut pas me voir. Nous nous retrouvons toutes au troisième étage. La gamine nous quitte à la chambre 320. Quelques portes plus loin, une immense banderole verticale sur trépied affiche un film. En grosses lettres, Lion Queen Production. Lion Queen Production. C'est le nom de la boîte de Blanche d'Orsay. Alors, il y a écrit sur l'affiche « Lion Queen Production présente Love Soccer ». Il y a aussi deux noms d'acteurs en gros, Alain Sergo et Paloma Girard. « Ferrier, pourquoi ce kakémono est-il toujours de travers ?» bougonne Blanche d'Orsay. « Elle a mal à la gorge ou elle parle japonais ?» je demande. Personne ne me répond. Nous avançons de quelques pas. Au moment où nous allons entrer, la porte s'ouvre et un type en sort. Un salut rapide. « Je fonce à la presse !» dit-il à personne. Nous entrons dans la fameuse immense suite, plus exactement dans un salon, encombré de mallettes, d'ordi, de matériel de tournage, de tenues de soirée et de tables remplies de victuailles. Un peu comme sur le rond-point, mais pas dans la même catégorie. Dès que la porte est refermée derrière nous, quelqu'un l'ouvre de nouveau et se précipite vers un bureau en disant « Il faut que j'imprime cet email et je repars ». Ce n'est pas seulement une suite encombrée de matériel de tournage. En réalité, c'est un moulin. Ça rentre et ça sort, ça circule, ça se croise, sans dire bonjour. Chacun est perdu dans ses pensées, qu'il exprime en général à voix haute. Je ne suis pas bluffée par le luxe de la pièce. Je connais déjà, j'ai vécu quelque temps moi-même dans un palace, dans une vie antérieure. Si la Dorsay croit m'épater, elle se fourre le doigt dans l'œil. Ce qui me sidère ici, c'est plutôt l'ambiance, survoltée, excitée. Une ruche en période de récolte, une fourmilière dans laquelle un méchant gosse a donné un coup de pied. La sortie du métro à Wuhan à l'heure de pointe, avant et après le confinement du coronavirus. Pourtant, il n'y a aucune impression de désordre. Chacun a l'air d'avoir sa tâche précise et urgente à exécuter. J'essaie de comprendre à quoi il joue, je ne vois pas. Je fais ma blasée et je me dirige vers le minibar. Je rafle des cacahuètes, une mignonnette de rhum punché, histoire de prendre mes marques. Et comme je veux faire bonne impression et montrer qu'elles ne m'ont pas engagé pour rien, je demande où sont les toilettes pour aller parler à Serco. Elle m'indique une porte fermée à clé. Je tape discrètement trois coups et j'entends un son étouffé. « Non, laissez-moi, je veux personne !»«
Même pas ta superwoman ?» demande Audrey.
« Pourquoi tu dis ça? Elle est là ?» Avant qu'elle ne réponde, je prends la direction des opérations. « Oui, je suis là, monsieur Serco. » Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas envie de profiter de votre heure de gloire?
Je les emmerde tous! Je suis un mec libre, moi! Hors de question que j'aille me faire trucider par une bande de mal embouchés! Je les connais!
Il serait pas un peu parano? Laissez-moi entrer, qu'on discute. » Un silence et on entend le bruit du verrou. J'ouvre la porte et je me faufile. La Dorsay, qui essaie de se glisser avec moi dans la salle de bain, se voit refoulée. 13. Sergo, les yeux injectés de sang, l'air d'un fou, referme la porte à clé et s'adosse pour m'observer comme s'il voulait être bien sûr que c'est moi. Comme il ne dit rien, j'attends un peu, moi aussi. Il paraît que c'est toujours celui qui parle le premier qui perd. J'ai beau le savoir, je finis par rompre le silence. « Bon, c'est quoi ce cinéma-là, monsieur Sergo? Allons, c'est vrai que vous voulez que moi comme garde du corps? Il est où le mec de ce matin-là, le gros baraqué? Ce naze, je l'ai fait virer, trop nul. C'est quoi votre nom? Cri-cri. Cri-cri, c'est vous que je veux. Si vous êtes à mes côtés, j'irai au bout du monde avec ma fiancée de l'autre côté, bien sûr. Parce que vous pensez que moi, je vais pouvoir remplacer ce gros balèze? Faut pas pousser mémé quand même. J'ai aucune formation dans ce domaine et en plus, j'ai pas fait d'art martial. Faux. Comment ça? Je vous ai vu ce matin. Vous lui avez mis un coup de latte en plein dans le mille à l'autre taré qui voulait ma peau. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Je ne comprends pas pourquoi vous vous dénigrez comme ça. Et puis, vous êtes là pourquoi? Ferrier, elle m'a envoyé un SMS que vous avez signé le contrat pour ce soir. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais à vous, je veux dire la vérité. Je préfère. Et puis, au fait, pourquoi vous voulez des gardes du corps? C'est pas un peu frime comme attitude? Alors là, je craque. C'est quand même incroyable. Personne ne veut me croire que j'ai besoin de protection. Ni Ferrier, ni les Dorsay, ni même mon agent. Berne, Paul Berne. Vous le connaissez? Non. Pourquoi je devrais? C'est l'agent le plus puissant en France. Un vrai bol de l'avoir. C'est grâce à Paloma. Bref, lui aussi, il me traite de parano. Un agent, c'est là pour vous soutenir, non? Vous avez peur de quoi? Vous n'êtes pas si connu quand même, c'est vrai quoi, vous n'êtes pas Daniel Craig. Peut-être. Pourtant, je me sens en danger de mort. C'est l'environnement. Vous voyez trop de films, vous. Ah oui, et ce matin, vous avez vu ces types? Ils voulaient ma peau, non? Écoutez, n'exagérons rien, je les connais, ils ne seraient pas allés bien loin. Enfin, si vous le prenez comme ça et si vous me dites vraiment qu'il y a un danger, alors j'aimerais mieux si vous faites venir deux zigotos en plus, des vrais, des pros. Celui de ce matin, puis un autre en plus aussi. Ça me rassurerait. Comme ça, moi je suis rassurée, vous aussi puisque je suis là, Blanche Dorsay aussi puisque vous venez à la projection, et tout le monde il est content. Ça vous irait comme ça? Et la fête? Quoi la fête? Il y a une énorme soirée sur la plage après le film. Vous venez aussi, c'est trop chaud. Vous vous rendez compte, sur une plage, n'importe quel porte-flingue pourra s'approcher de moi et me dézinguer. Vous vous croyez dans les tontons flingueurs ou quoi? Je rigole pas en tout cas, je risque gros. Vous vous rendez même pas compte, ils sont prêts à tout. Qui ça? Pourquoi? C'est depuis que j'ai pris cette décision. Je fais des cauchemars épouvantables. Quelle décision? Je peux encore rien dire, c'est top secret, ça a un rapport avec mon mariage. Vous êtes mariée? Justement, non, pas encore. Je regrette pour la fête de ce soir, mais on m'a dit que c'était seulement pour le film, pas pour la fête. C'est pas le même tarif. Vous avez mal regardé le contrat. C'est pour 5 heures de présence, sans précision de lieu ni d'événement. C'est moi qui ai demandé ça à Audrey. Ça commence à 21h. Vous faites pas de mouron, je serai rentrée avant 2h du matin. J'ai pas que ça à faire, j'ai un truc à écrire. Maintenant que j'ai un pied dans le cinéma, je vais pas me contenter de faire l'acteur. Je vais écrire sur les coulisses du monde de foot et ça fera un scénario de série. Je vois d'ici le super carton au box-office. Il grogne quelque chose et il se met à pianoter sur son portable. C'est que j'en ai vu des magouilles, je peux vous le dire, parce que le petit Sergo, le naze, il compte pour du beurre, on peut tout dire, tout faire devant lui. Vous savez quoi, Cricri? Ne jamais sous-estimer. Personne, c'est le grand secret. Justement, à ce propos, j'aimerais bien que vous les gardiez pour vous, ces secrets, parce que moi, j'ai 3 gosses, j'ai pas du tout envie d'en savoir plus sur le monde du foot. 3 gosses? À votre âge? Oh, eh bon, ça va, qu'est-ce que vous avez tous? C'est comme ça et puis c'est tout, cherchez pas à comprendre. Et je suis plus vieille que j'en ai l'air d'ailleurs. Il continue à marmonner tout seul comme s'il ne m'entendait pas. Ils l'ont fait exprès, ça c'est sûr, pour me donner une leçon. Je pète plus haut que mon cul, c'est ça qu'ils veulent me dire. Je suis coincée maintenant, je peux plus faire machine arrière. Et puis je l'aime trop, mais quel con. Et voilà, je suis cuit. Ils ont des ramifications jusque dans les gilets jaunes, c'est dingue. On dit que l'amour rend aveugle, en vrai, ça rend con. Il prononce ces suites de mots sans queue ni tête, à toute vitesse, et je me demande où il veut en venir et s'il a encore vraiment toute sa raison. « Monsieur Sergo, je les connais bien, les gilets jaunes. Vous m'avez vu avec eux, n'est-ce pas ?»« Oui, alors, vous êtes au courant? Vous connaissez la taupe ?»«
Il n'y a pas de taupe chez nous. Les gilets jaunes, ils sont pas fichus ni de s'organiser, ni de tomber d'accord sur quoi que ce soit, et ils ont assez de soucis comme ça pour boucler leur fin de mois. » Peut-être qu'ils sont capables de le faire. En tout cas, ils ne le veulent pas. Alors franchement, comment vous avez dit, des ramifications, j'ai un sérieux doute sur vos sources.
Sergo continue. Chaque fois qu'il dit « mais quel con », il se tape le front avec le plat de la main. Il tourne en rond dans l'immense salle de bain en marmonnant cette litanie et je commence à m'ennuyer ferme. Je m'assois sur le rebord des chiottes, capot fermé avec une lime à ongles que j'ai piqué sur le rebord du lavabo, et j'entreprends de me refaire une beauté des mains. Quand il aura fini son cirque, j'imagine qu'il me le dira. En effet, il finit par se rendre compte que je ne l'écoute plus, et il s'adresse à moi. « Vous en pensez quoi, vous ?» Je ne veux pas lui montrer que c'était pas trop clair comme exposé, alors j'enchaîne. J'ai l'habitude avec les thèses parano de l'ami Pascal, le plombier au Select. Je reprends ma démonstration. Si je peux vous rassurer sur un point, les gilets jaunes, je ne veux pas parler en leur nom, mais enfin, ceux que je connais sur mon rond-point en tout cas, ils n'ont reçu aucune directive vous concernant. Ils me regardent d'un air dégoûté. Même vous, vous me considérez comme un parano. Comment voulez-vous que je m'en sorte ? Il prend soudain une voix caverneuse. Bon, en tout cas, votre mission... Bon, en tout cas, votre mission, si vous l'acceptez, et le voilà qui éclate de rire. Non, faites pas gaffe, j'ai pas pu me retenir, je suis un peu déconneur, faut pas vous fâcher. Il pique un fou rire, qu'il essaye de retenir, et comme j'attends que ça lui passe, il s'exclame. Oh, je pensais pas que vous étiez pisse-froid à ce point. J'aime bien être entouré de gaieté, moi. Tenez, je connais une super blague, je la mettrai d'ailleurs au début de mon bouquin. Non, pitié, pas une blague. J'ai horreur des blagues et j'ai encore plus horreur de ceux qui les racontent. En Russie, quel spectacle peut rassembler plus de monde qu'un match de foot ? Je fais un signe d'impuissance pour lui montrer que je ne comprends pas et que sa devinette est géniale puisque je ne trouve pas la réponse. Il se plie en deux de rire. L'exécution publique de l'entraîneur russe. Ça me fait pas rire du tout, j'en étais sûre. J'attends poliment qu'il finisse de s'esclaffer. Il me regarde, répète plusieurs fois la fin, en essayant de me faire comprendre ce qui est drôle, puis il renonce. « Bon, vous restez juste à côté de moi tout le temps ce soir, ok ? Je vais prévenir Paloma, qu'elle soit pas jalouse. » « Paloma Girard ? L'actrice qui joue avec vous ? Pourquoi elle serait jalouse ?»« Oui, Paloma Girard, vous voulez que je vous dise le vrai secret ?»« Non, je vais vous le dire quand même, vous le répétez à personne. Paloma et moi... On s'aime. Ce film est très important pour nous. Il est la clé qui va nous libérer de notre chaîne. Je veux rien savoir, dis-je en bouchant mes oreilles des deux mains et en chantonnant « la 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 ». Personne ne le sait, c'est un secret pour l'instant. Vous savez qui elle est vraiment, n'est-ce pas ? La 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 la. Et si ce soir vous êtes à mes côtés, vous pouvez être sûr que demain, tous les journaux People diront que vous êtes ma poule. Et Paloma va piquer une crise. Pfff, n'importe quoi, vous n'êtes pas mon genre. Il a l'air un peu vexé. Faut dire que j'ai exagéré parce qu'il est pas mal. Mais j'aimais pas le tour que prenait notre conversation. Et votre fiancée, elle sera là aussi. Elle verra bien qu'il n'y a rien entre vous et moi. Il me fixe avec reproche. Ok. Je reste à vos côtés tout le temps. Et c'est tout ce que vous voulez que je fasse ? Oui. Vous ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles, et si vous remarquez le moindre truc louche, vous me prévenez, et on se couche tous les trois, ok ?
Comment ça, on se couche ? Il serait pas en train de me proposer un plan à trois, ce pervers.
Ben oui, on se met à plat ventre par terre pour éviter les balles perdues, ou pas ?
Et soudain, comme si ce n'était pas à cause de lui qu'il venait de perdre du temps précieux. Il ajoute sur un ton de reproche. « Bon, c'est pas tout ça, on a du pain sur la plancha. Il vous faut une tenue de soirée. » Il se dirige vers la porte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.